Chapitre 4. L'obscurité. Profonde, immuable. Qu'elle ouvre ou qu'elle ferme les yeux. À chaque clignement de paupières, Julie percevait une résistance, un froissement de tissu. Elle avait l'impression de flotter quelque part dans l'ailleurs, loin du monde des humains. Pleinement connectée à son intérieur, à cet univers d'oxygène qui circule, de cœur qui pulse, de globules qui heurtent les parois des artères. Envie. Cette toute première pensée la frappa au moment où les réflexes redonnent leur place à la conscience. Dans la brume, Julie sut qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, et tout se bouscula dans sa tête. Le ronflement d'un moteur, une sensation de vitesse, cette odeur de produits d'hôpital autour d'elle. Et ce truc qui l'empêchait de déglutir. Un respirateur. Intubé. Une chute sévère. Un accident peut-être. État critique en tout cas. Vite. Il fallait aller vite. Fendre la route, sirène hurlante. Les urgences le bloquent, une anesthésie, on opère. À peine germée, l'idée fut rejetée par son cerveau. Et puis, ce n'était pas un tube qui lui asséchait la gorge, mais un tissu infect, enfoncé dans sa bouche, un goût de graisse et de gasoil, un mal de crâne, des vapeurs nauséeuses qui revenaient, tel un ressac. Elle se sentit repartir dans les limbes, comme sous une croûte de glace, avant de remonter péniblement à la surface en manque d'air. Les sons qu'elle tenta d'émettre vibrèrent dans ses narines et franchirent à peine la barrière de ses lèvres. Julie comprit alors. Elle était entravée, les mains dans le dos, les pieds serrés. Ses poignets la brûlaient, ses chevilles étaient douloureuses d'avoir trop frotté l'une contre l'autre. Elle essaya de crier, s'étouffa, recommença, encore et encore, se mit à remuer comme elle pouvait. Elle se cogna contre des parois de toutes parts. Puis, au milieu de cette agitation, un son lointain, en sourdine, capta son attention. De la musique. Un coffre. On l'avait enfermé dans un coffre de voiture. L'orage de questions se déchaîna. Où? Comment? Pourquoi? Sa mémoire se réfugiait derrière un rideau noir qu'elle ne réussissait pas à franchir. La tête lui tournait. On avait dû lui injecter quelque chose ou la taper jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Seuls des flashs, des bribes de souvenirs incohérents lui parvenaient. Elle, sur un vélo, une pente, des rochers, une salle de classe. Elle rit, elle mange une pizza avec sa copine, elle danse, un torrent lui barre le chemin, puis rien d'autre qu'un long, long tunnel d'obscurité. Son rythme cardiaque s'était accéléré, comme pendant un sprint. Ça ne pouvait pas lui arriver, pas à elle. Ces trucs-là se passaient ailleurs, dans les grandes villes ou dans les séries télévisées. Mais pas à elle, une lycéenne de 17 ans, une ado lambda, ni plus riche ni plus pauvre qu'une autre, un peu jolie avec ses yeux bleus, ses cheveux d'un beau blond foncé et son corps athlétique, mais pas un canon non plus. Il y avait mieux, 100 fois mieux qu'elle. Et pourtant... Kidnappée. Le mot la percuta comme une fulgurance. Ça ne pouvait pas être autre chose. Elle allait se faire violer. Mourir. On ne la relâcherait pas. Pourquoi on prendrait la peine de l'emmener dans un véhicule pour la libérer ensuite? Non. Il n'y avait aucun doute. On retrouverait son corps nu, souillé, frappé de coups de couteau dans un champ ou au fond d'une décharge. Et cette musique-là, tout près d'elle, allait la rendre folle. Le responsable de son malheur écoutait tranquillement la radio. Un conducteur ordinaire. Attentif à sa route, à cette différence près qu'il retenait une fille dans son coffre. Nouvelle ruade. Les chocs provoquaient des décharges dans ses membres. Pourtant, il fallait qu'elle fiche le camp d'ici. Quitte à se jeter sur la chaussée, quitte à se faire mal. Il faisait ça dans les films, il sautait même des trains. Et il s'en sortait toujours. Un brusque coup de frein la plaqua contre la cloison qui la séparait de l'habitacle. Le véhicule s'arrêta, mais le moteur continua de tourner. Elle perçut des bruits rapides de pas, s'immobilisa quand l'air glacé lui agressa le visage. Une fraction de seconde s'écoula avant qu'une main ne gifle violemment sa joue. Douleur jusqu'aux tempes. Puis elle sentit la piqûre d'une pointe au niveau de sa pomme d'Adam. « Recommence ça et je te tranche la gorge. T'as pigé ?» Les larmes de Julie se perdaient dans son bandeau. Elle acquiesça en reniflant, se recroquevillant comme une bête prise au piège. « Si tu t'étouffes, respire par le nez. Et garde ta salive, parce que t'auras pas une goutte d'eau, salope. » Un claquement sec. L'instant d'après, la voiture redémarrait, et la torture mentale reprenait. Car elle avait remarqué quelque chose. Un accent. L'homme parlait avec un accent des pays de l'Est. Justement ceux où on enlève des filles pour les séquestrer dans des caves, les martyriser, les dresser et les revendre comme prostituées à l'étranger. Salope. Elle regardait souvent des reportages. Elle le savait. C'était ça ou mourir. Ça et mourir. Se calmer, à tout prix. Si tu t'étouffes, respire par le nez. Comme si elle avait le choix. Inspirer, temporiser, expirer. Encore, inspirer, temporiser, expirer. Ouverture espagnole, pion E4, pion E5, cavalier F3, cavalier F6. Malgré le feu sur sa joue, elle visualisa les pièces, l'échiquier, imagina les deux camps, récita les premiers coups, jusqu'au début des variantes. Cavalier A5, défense Pollock. Pion B6, défense Owen. Les battements de son cœur ralentirent enfin. Elle retrouva son souffle. Peut-être que tout cela n'était qu'un cauchemar, qu'elle allait se réveiller et que tout redeviendrait comme avant. Si seulement tout ça pouvait ne pas être réel. Allongée sur le côté, elle remonta les genoux contre son torse pour se réchauffer. Elle n'était pas nue. Qu'est-ce qu'elle portait? Baskets, cuissardes d'hiver, veste thermique. Oui, c'était ça. Sa tenue habituelle quand elle faisait du vélo. Mais elle avait beau se concentrer, les derniers souvenirs ne revenaient pas pour autant. L'information qui se fraya un chemin jusqu'à son cerveau la rassura cependant. Il l'avait laissée habillée. C'était bien, c'était très bien même. Peut-être qu'il ne lui ferait pas de mal après tout. Il allait finir par avoir des remords et l'abandonner au bord de la route. Elle n'avait pas vu son visage, elle ne le regarderait jamais. Dès qu'elle pourrait, elle le supplierait de la relâcher, jurerait qu'elle ne dirait rien, expliquerait qu'elle n'avait aucun moyen de connaître son identité. Petit Roc, cavalier D4, pion B4. Les minutes qui s'égrenaient étaient un enfer. Parce que chacune d'elles l'éloignait un peu plus de sa maison, de sa famille, l'entraînant peut-être vers une terre étrangère où même son père ne la rechercherait pas. Combien d'affaires d'enlèvement résolvait-on? Dans combien de cas les victimes étaient-elles ramenées vivantes chez elles? Alors que ces questions la rongeaient, les heures succédèrent aux minutes. 3, 5, 8, faisait-il nuit dehors? Combien de temps était-elle restée inconsciente? Elle se mit à aspirer son baillon pour récupérer un peu de salive. Sa gorge était si sèche. Et le comble, c'était que bientôt, elle ne pourrait plus se retenir. Elle allait se faire pipi dessus. Le régime moteur commença à varier plus souvent. Désormais, on rétrogradait, on accélérait. Elle entendait le tic-tac du clignotant, ressentait la force centrifuge sur les ronds-points. Le véhicule s'arrêtait, redémarrait. Il se trouvait en ville. Ça signifiait une présence humaine à proximité. Peut-être juste là, à quelques mètres. Si elle se remettait à cogner contre la tôle et à hurler, elle se donnerait une chance qu'on lui vienne en aide. Elle réprima vite cette idée stupide et dangereuse. Si elle échouait, ce malade la tuerait, sans hésiter. Il s'écoula encore du temps avant que la voiture ne roule au ralenti. Dans son monde de ténèbres, Julie percevait des crépitements sur la carrosserie, la grêle. Elle entendait aussi des bourrasques, si puissantes à présent qu'elles s'infiltraient par les interstices de sa prison mobile. Le véhicule brinque-ballait, la chaussée était minée de nids de poules et de bosses. Alors elle comprit. On l'emmenait dans un endroit isolé, parce qu'il était l'heure d'en finir avec elle. Pour la première fois, le moteur se coupa. Le bref soulagement que le silence lui procura laissa place à la terreur. Elle s'était plaquée avec tant de force contre le fond du coffre qu'elle en sentait la moindre aspérité dans son dos. Elle pleurait. Elle ne voulait plus sortir de là. Un claquement de portière, un déclic, l'ouverture. Elle se rendit compte que ce qu'elle avait pris pour de la grêle était en fait du sable. Du sable soulevé par le vent et qui s'engouffrait dans son espace vital. Une douleur fulgurante lui paralysa l'épaule. Puis une brûlure se répandit dans ses muscles. Comme une ramification en feu qui gagna son bras, son torse, sa mâchoire. Une anesthésie. La dernière chose que Julie perçut avant de sombrer, ce furent ces mots. Les mots d'un autre homme, sans accent cette fois, et murmurés dans le creux de son oreille. « Tu te croyais immortelle ?»